Mémo audio, une mémoire sonore.
Bravo et merci pour cette. Oui, il y avait beaucoup à dire, mais c'est très bien, une synthèse magnifique de ce que l'on vit actuellement et des démons contre lesquels il va falloir se battre. Voilà, bah, écoutez, place au débat. Donc, j'ai des questions tout au fond là-bas, donc je monte.
Bonjour. Donc, merci pour cette belle conférence. Donc, j'avais une question. Vous avez beaucoup parlé des partis politiques et donc, on a l'impression, ou je ne sais pas si c'est votre opinion, on pourrait être sauvé par la démocratie, j'appelle bourgeoise, c'est-à-dire par les partis soi-disant de gauche qui prendraient le pouvoir et nous sauveraient. Et vous avez pas. Ça, c'est pas une critique, hein, c'est juste. Vous n'avez pas beaucoup parlé des confédérations syndicales. Et par contre, vous avez bien montré les grèves et on a bien l'impression que quand il y a quelque chose qui bouge, c'est plutôt grâce aux grèves, donc aux confédérations syndicales qui mettent les gens en mouvement plutôt qu'aux partis de gauche qui siègent au Parlement. Alors, juste, je voulais. C'est une chose que vous. Vous savez certainement mieux que moi que, par exemple, en 1995, à la fondation, il y a 130 ans de la CGT, les syndicalistes révolutionnaires étaient contre le parlementarisme. Donc, c'est-à-dire qu'au début, la Confédération est fondée quand on a l'idée qu'on peut peut-être demander quelque chose aux gens qui siègent au Parlement, mais bon, pour toute façon, il ne faut pas leur faire confiance. Donc, je m'arrête là. Je voulais juste, si vous. Vous vouliez commenter sur ça, sur le rôle des confédérations syndicales, en particulier les plus anciennes, sur ce qui fait avancer, voilà, qui porte un peu de nouveauté dans la vie des travailleurs et travailleuses.
Bonsoir et merci pour votre intervention. Je me posais la question sur les futurs possibles à l'heure où nous en sommes, aussi bien les plus noirs que les plus. Ceux qui nous feraient le plus envie. Votre intervention et celle de la personne qui vient de s'exprimer m'a fait penser à un livre de Jérôme Bachet d'il y a quelques années qui disait qu'on risquait de voir apparaître des formes de ZAD de plus en plus fréquentes, un mitage en fait territorial de nos formes d'organisation politique avec peut-être oui des ZAD d'un côté, encore des États bourgeois pour utiliser le vocabulaire précédemment cité, et d'autre part peut-être aussi une sorte de capitalisme de perforation où on aurait des enclaves d'hyper riches qui se seraient émancipées de toute forme et d'impôts et de souveraineté des États pour vivre leur petite vie comme ils s'en trouvent déjà dans quelques coins du monde, ces enclaves qui sont créées par des grands manias de la Silicon Valley. Quel monde ça dessine un petit peu ce temps sauvagement du capitalisme? Est-ce qu'on arrive à un moment d'extrême fragmentation et idéologique et territoriale? Voilà.
Une petite réflexion. Pour sortir du capitalisme, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de l'économie, tout simplement?
Je crois situer la matrice de cette question. Du côté du comité invisible, non, quelque chose comme ça, l'autonomie politique. Oui, bah, allez-y. Les marxiens. ils ne sont pas très. Ouais, bon, bah, je reprendrai plus tard.
Bonjour. Je suis factrice. Oui, nous le sommes tous là, et quand vous avez présenté l'évolution de la Poste avec l'exemple de vos parents et que nous on le vit maintenant, donc on peut vous dire que ça a empiré, que ça n'est certainement pas allé en s'améliorant. Je suis également syndicaliste donc, à la CGT, pour ne pas la nommer, mais je la nomme parce que je suis quand même assez fière d'être à la CGT. Donc, voilà. Et on se bat et on milite pour améliorer les conditions de travail, mais c'est pareil, les attaques sur les syndicalistes sont accentuées. ces dépressions incessantes. Et du coup, quand je vois l'évolution, et vous dites que ça a commencé après les années 80, et que nous sommes en 2026, et que ça n'a fait que s'accentuer, j'ai l'impression que ce capitalisme-là ne fait que augmenter. Et du coup, j'arrive pas à me dire mais quelle solution on va avoir pour combattre celle-ci. Et à l'heure qu'il est, pas que je baisse les bras, mais franchement, j'ai du mal à me projeter quand on voit que dans les années 80, ce qu'ont vécu vos parents, finalement, nous, on le vit encore en 2026 et c'est catastrophique.
Et c'est juste une remarque pour compléter, c'est qu'aussi les pratiques capitalistes sont aussi mises en place dans les collectivités aussi gouvernées, entre guillemets, par la gauche territoriale, etc.
Peut-être un mot, je suis sur le contexte international, cette tendance malgré tout à la fascisation du monde qui me paraît aussi important à relever. Mon épouse est chilienne et récemment, donc on se retrouve avec un fils de Pinochet au pouvoir. Voilà, c'est un exemple, mais c'est malheureusement beaucoup de pays qui ont basculé de ce côté-là actuellement.
Merci, puisque vous parliez d'espoir et de trouver des solutions. Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau mondial, comme on vient de l'entendre, sur la fascisation, on a quand même l'Empire occidental qui vient de prendre une claque monumentale, et c'est pas fini, on ne sait pas trop comment ça va finir, mais il a pris une claque monumentale, il s'est arrêté de bombarder l'Iran, il n'en a plus les moyens, il est arrêté clairement avec une catastrophe mondiale au niveau financier. Et donc, dans ce cadre-là, où quand même l'extrême droite me semble prendre un sacré coup derrière les oreilles, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appuyer là où ça fait mal, quoi, de trouver le moyen de rebondir sur ce qui arrive pour essayer de montrer que c'est pas ce que c'est, quoi, l'extrême droite. Merci.
Si vous voulez, je peux déjà commencer un peu répondre, ce qui est, et heureusement, c'est pas uniquement des questions, ce que vous proposez, ce sont de véritables réflexions, c'est très important et très intéressant, puis ça va me permettre aussi en douce de vous montrer ce que je, enfin vous d'évoquer ce que je n'avais pas eu le temps de montrer justement. Bon, la première chose, c'est que en effet, pour la Poste, hein, je vais essayer d'aller des constats actuels jusqu'à éventuellement des alternatives possibles, mais bien sûr que ça s'est encore accéléré, aggravé, dégradé à la Poste. Et notamment, on a pu montrer, hein, ça a été là aussi, il y a eu des enquêtes sociologiques sur le recrutement de plus en plus à la Poste dans certains secteurs, mais c'est aussi comme à la SNCF aussi. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a cette idée au cours des entretiens d'embauche qu'on va recruter les gens sur la base de leur conviction que, en fait, la Poste est avant tout une entreprise qui doit faire des profits, qui doit faire des qui doit être dans la marchandisation. On parlait tout à l'heure de placement de produits, etc. Mais il faut avoir incorporé cette idée que c'est plus des usagers qu'on a en face de nous, mais ce sont vraiment des clients et donc une marchandisation généralisée. Donc c'est pas du tout étonnant ce que vous me décrivez. Et, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible parce que ça détruit aussi le métier, parce que souvent, j'ai par exemple discuté avec le facteur de la ville de mon enfance. Bon, c'est plus le même que quand j'étais petite, mais justement, il me décrivait aussi. Enfin, c'est un turnover aussi généralisé. Donc, mon père, par exemple, il avait fait toujours la même tournée. Enfin, pas pendant toute sa vie, mais pendant très longtemps. Et du coup, les personnes, il les connaissait très très bien. Il rendait des services, etc. Et maintenant, ces services, ils sont payants. C'est devenu là aussi un objet de marchandisation. Donc ça n'a rien d'étonnant ce que vous décrivez, malheureusement. La question des syndicats et des partis. Bon, moi, j'ai pas eu l'impression de parler plus de partis que d'autres choses. J'ai à un moment évoqué, par exemple, le cas de LFI, mais c'était pas tant pour parler de LFI que pour parler de cette espèce de manière de redire toujours que mieux vaut Hitler que le Front populaire. Alors je ne compare pas Bardella à Hitler, c'est quand même toujours cette idée que en dernière instance, la grande bourgeoisie, les intérêts hégémoniques, les intérêts dominants vont se tourner toujours vers l'extrême droite. Alors ça, bon, je pourrais en parler des heures en réalité, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années. Donc c'était plutôt dans cette optique problématique que j'ai cité l'exemple de LFI, parce que j'essaie d'observer, moi je ne suis pas à la France Insoumise, mais je me sens vraiment très solidaire par rapport au déversoir de haine et de diffamation, de dénigrement, de disqualification que cette organisation, ses militantes et ses militants subissent. Mais ça, ce n'est pas étonnant. Mais j'aurais pu vous montrer des exemples tirés de la presse. Par exemple, Le Point. Vous voyez, Le Point, il y a quelques années, c'était une sorte de droite classique républicaine. Maintenant, c'est devenu complètement RN. Hein. C'est comme Le Figaro, d'ailleurs. Et c'est du premier degré, ce que je vais vous dire, mais on parle vraiment dans Le Point, notamment sous la plume de Bernard-Henri Lévy dans ses chroniques hebdomadaires. Mais pas seulement, hein, pas seulement Bernard-Henri Lévy. Mélenchon, c'est un diable. Mélenchon, c'est un cannibale. Et donc, il faut... Mais c'est au premier, vraiment au premier degré. Et donc, c'est un petit peu ce que je vous ai montré sur, en réalité, LFI, c'est l'extrême droite, LFI, c'est les fascistes, etc. Et je crois d'ailleurs qu'il faudrait beaucoup plus de solidarité à gauche devant ce genre de déversoir. Je pense qu'il y a... on peut avoir des désaccords. Et c'est le principe de la démocratie. Les gauches, je vous le disais, à un moment en 1934, les communistes disaient des socialistes qu'ils étaient des socioflics et des sociofascistes. Les socialistes détestaient aussi les communistes. Les radicaux, par exemple Albert Sarraut, un des dirigeants du Parti radical, disait en 1927 « le communisme, voilà l'ennemi ». Donc le communisme était devenu l'ennemi absolu. Bref, il y avait un niveau de détestation, d'hostilité réciproque qui était énorme. Et ça ne les a pas empêchés, justement, notamment sous la pression de cette auto-organisation populaire massive, de s'allier à partir essentiellement de 1935, et puis avec le Front populaire remportant les élections en 1936. Alors ça ne va pas sans énormes contradictions, hein, mais ce n'est pas tout à fait le sujet de la soirée, sauf si vous me posez des questions auxquelles je reprendrai volontiers. Mais bien sûr que les luttes syndicales, et je pense avoir quand même beaucoup parlé des grèves, et des grèves, en fait, les grèves, c'est aussi bien, alors j'essaye de retrouver en même temps mes illustrations, mais par exemple, il y a une grève dont on n'a pas beaucoup parlé quand même en France. C'est la grève générale qui a eu lieu en Inde il y a quelques années. C'était quand même là. On est un peu petit bras hein, à côté, hein, parce qu'on était 3 millions de personnes dans les rues contre la réforme des retraites. En 68, comme je vous l'ai dit, il y avait 10 millions de grévistes. En 1936, il y en avait 2 millions. Mais là, c'était 200 millions de personnes qui étaient en grève, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Avec d'ailleurs aussi tout ce qu'on appelle en Inde le commun des semences. C'est-à-dire, c'est l'idée de protéger les biens communs, les collectifs paysans, notamment du côté des ouvrières et ouvriers agricoles, hein, contre les grands propriétaires fonciers capitalistes de l'agro-industrie aussi. Donc, bon, on pourrait citer bien d'autres grèves, et c'est pour ça qu'à un moment, je vous ai fait apparaître, j'en ai profité là pour vous faire apparaître un exemple qui me tient particulièrement à cœur. C'est la grève, il y a eu beaucoup de grèves, comme vous le savez, des femmes de chambre dans différents hôtels. Là, c'est la grève de l'hôtel Ibis Batignolles. Et justement, le réflexe a été tout de suite la syndicalisation. C'était à la fois, c'était à la CGT, essentiellement. Et donc, syndicalisation, caisse de grève, solidarité, piquet de grève. Enfin, bon, moi, comme j'habite pas très loin, j'y allais très très souvent. C'était vraiment très très impressionnant. Et elles ont continué d'ailleurs pour certaines d'entre elles. Hein, je pense à l'une de leurs porte-parole. Alors souvent on a en tête Rachel Keke, qui est devenue députée. Mais moi j'ai en tête Sylvie Kimissa Esper, qui était l'autre porte-parole de la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles. Et Sylvie, elle va vraiment très régulièrement soutenir des luttes, soutenir des piquets de grève, etc. Et ça suppose aussi en effet la syndicalisation. Mais moi, alors là maintenant, je vais vous donner aussi mon avis hein, par rapport aux remarques que vous avez faites. Je suis même syndiquée. Je pense que le syndicat, c'est vraiment une arme absolument décisive. Il ne faut pas s'imaginer d'ailleurs qu'en 1936, il y avait plus de syndicats qu'aujourd'hui. Hein. Le taux de syndicalisation un peu avant 1936, c'était 7%. Aujourd'hui, on est à 10-11%. Donc il ne faut pas toujours se dire que c'était mieux avant et se dire par exemple que c'était plus facile de faire grève en 1936. La CGT, justement, réunifiée en janvier 1936, mais la CGT avait appelé en 1934, le 12 février 1934, à une grève générale contre le fascisme, justement. Parmi les stratégies qui étaient avancées, c'était voilà, face au fascisme, face au danger, à la menace que représentait l'extrême droite après le 6 février 1934 et la tentative émeutière de renverser le Parlement, la CGT avait appelé à une grève générale. Bon, c'est très très important, l'arme du syndicalisme. Mais moi, je dois vous dire que je suis de plus en plus en recul par rapport au fétichisme qu'on peut avoir de la charte d'Amiens. Alors, ça va peut-être vous choquer, hein, mais je vous donne mon avis, on pourra reprendre la discussion. Mais tant que j'ai le micro, j'en profite. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner un exemple précis. Donc, charte d'Amiens, qui dit plein de choses, et en fait, souvent, on la caricature, mais notamment cette idée, bien sûr, et c'est très important, que les syndicats doivent être indépendants des partis politiques. C'est très important. Et je suis très attachée à ce principe. Moi, je parle du fétichisme qui a été fait de ce principe. Je vous donne un exemple sur la séquence 2024. Donc, il y a eu les élections européennes, législatives, la dissolution de l'Assemblée nationale, juin-juillet 2024. Une énorme campagne du Nouveau Front Populaire, une campagne qui, moi, comme historienne, m'a fait penser à de grands moments de l'histoire, quand même. Un peu à justement cette campagne de 1936, à la fois très joyeuse, mais très grave aussi, avec une dimension très intergénérationnelle. Beaucoup, beaucoup de jeunes, du porte-à-porte, des rassemblements, tout ça, c'était vraiment très impressionnant. Et finalement, malgré la machine de guerre médiatique, qui était quand même globalement très hostile au Nouveau Front Populaire et qui donnait déjà Bardella gagnant, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, le 7 juillet 2024, le jour des résultats des législatives, enfin, moi je tremblais comme une feuille parce que je... Enfin, quand même, tout le monde disait, les médias disaient c'est Bardella, voilà, on va avoir Bardella. Et moi j'ai des jeunes, des élèves, des étudiants et étudiantes qui me disaient, mais madame, parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup de mes élèves qui sont d'origine, enfin, comme le dit Bali Bagayoko, héritier de l'immigration, et qui me disaient, mais madame, est-ce qu'on va être chassé d'ici? Et ça, j'en voudrais toute ma vie aux forces qui ont permis ça, qui ont permis cette angoisse-là et ces cauchemars de ces jeunes. Mais donc, le Nouveau Front Populaire l'a emporté contre toute attente, a battu cette extrême droite qui était donnée gagnante. Et après, il y a eu l'été, après, il y a eu toutes ces tergiversations d'Emmanuel Macron pour ne surtout pas choisir un gouvernement de gauche, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, avec les pressions notamment de Bernard Arnault. Bon, enfin, Macron n'a même pas besoin de Bernard Arnault pour prendre cette décision. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien. C'est-à-dire qu'en particulier, il y a eu cette séquence 30 septembre, 7 octobre 2024. 30 septembre, une marche organisée notamment à l'initiative de la France Insoumise. On y a aussi beaucoup parlé de la Palestine. Mais il n'y avait pas beaucoup d'organisation d'ailleurs, parce que comme c'était au départ une initiative plutôt France Insoumise, ben... Voilà, bon, il y a eu de belles manifestations, c'était un samedi, voilà, c'était le 30 septembre. Et puis, il y a eu le 7 octobre, alors pas rien à voir évidemment avec le 7 octobre 2023, hein, mais là, on est en 2024, et c'était la manifestation intersyndicale en fait, la journée d'action intersyndicale. Et c'est tout ce qu'il y a eu. Et je me souviens d'ailleurs du fait que les syndicats disaient « Ah ben non, mais nous, on ne peut pas appeler au 30 septembre parce que c'est une initiative politique. » Mais moi, je vous avoue que je trouve que ce n'est plus à la hauteur de la situation dramatique qu'on vit. De dire « Voilà, ben non, mais il y a une journée d'action, alors ça va être celle des syndicats, il y a une initiative, mais ça va être celle des partis politiques. » Je vous rappelle qu'en 34-36, le Front populaire... C'était des syndicats, des partis, des associations, des coopératives, des mutuelles, des mouvements, des ligues comme la Ligue des droits de l'homme, etc. C'était ça, le Front populaire. Ce n'était pas que des partis politiques. Et donc, cette idée que vraiment, il ne faut pas marcher sur ces plates-bandes réciproques, bon, moi, je ne suis pas convaincue par ça. Voilà. Et donc, par rapport à ce que vous disiez sur est-ce qu'il ne faut pas, du coup, être anti-parlementaire, enfin, voilà, reprendre la tradition du syndicalisme révolutionnaire, de l'anti-parlementarisme, etc. Moi, je dis que maintenant, étant donné la gravité extrême de la situation, tous les moyens sont bons. Et moi, je refuse désormais je ne dis pas que c'est du sectarisme de dire ça, hein, mais moi, je refuse les choix alternatifs. Certains qui vont nous dire « Non, mais c'est que les élections, il n'y a que les élections qui marchent. » D'autres qui vont nous dire « C'est que les ZAD qui marchent. » D'autres qui vont nous dire que c'est juste on fait des associations, des coopératives locales. Moi, je pense qu'il faut voir ça comme une mosaïque et qu'il faut faire tout ça et ne pas les opposer. Et donc, non, mais c'est très bien si on a des élus. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que les élus au Parlement ne font pas grand-chose. Moi, je considère que les élus actuellement, alors je ne vous dirai pas où je mets la barre, à quel endroit de l'hémicycle je place la barre, mais beaucoup de ces élus, je les considère comme des camarades. D'ailleurs, j'en connais beaucoup, parce que j'en connais beaucoup qui sont issus des luttes, des luttes de terrain, et qui continuent d'être sur les piquets de grève. On l'a vu pendant le mouvement des retraites, hein, d'ailleurs, voilà, des gens, des députés qui étaient sur les piquets de grève le matin, qui ensuite allaient à l'Assemblée, qui ensuite allaient en manif, parfois allaient en manif sauvage, etc. Pour moi, c'est des camarades, ces gens. Et voilà. Et donc, en fait, il ne faut pas spécialement opposer les luttes syndicales, les luttes des parlementaires, les luttes des ZAD. Tout ça, il faut vraiment mêler ça dans un tableau qui formerait comme une mosaïque, parce qu'on n'a plus le choix, en fait, des querelles de chapelle. C'est juste plus possible, étant donné la gravité de la situation. Je pense que, justement, quelqu'un a dit, bah oui, je suis un peu tentée de baisser les bras, même si je ne vais pas le faire. C'est évidemment ce que cherche le pouvoir en place. Hein. C'est pour ça que, chez les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de choses très, très diverses. Mais je trouvais que, justement, il y avait quand même des mots très très forts pour lutter contre la résignation, pour lutter contre ce rouleau compresseur qui voudrait justement qu'on se dise non, il n'y a plus rien à faire, on est désespéré, qui disait plein de choses en fait, qui disait nous sommes tous des hommes et des femmes politiques, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'en remettre aux décisions des dirigeants politiques. Bon, j'aime bien celui-là par exemple. mais qui disait aussi, enfile ton gilet, éteins ta télé. Et c'est intéressant parce que, pour moi qui avait travaillé aussi sur 1968 avec ces fameuses affiches de 68, presse ne pas avaler, on ressortait aussi ces affiches de 68 pendant ces mouvements, etc. Avec cette idée aussi de reprendre des thématiques du Conseil national de la résistance, comme mettre les médias à l'abri des puissances de l'argent. Donc les luttes, oui, elles sont très 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 importantes. Et justement, voilà. Donc j'aime bien aussi tout l'humour de nos luttes en fait, au milieu de la gravité. Et puis il y a ce qui se passe ailleurs aussi. Donc quelqu'un parlait de ZAD et donc voilà. Enfin, encore une fois, je veux pas ériger des totems. Y compris dans les ZAD, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où j'y suis allée beaucoup, il y a aussi des contradictions, il y a aussi des tensions, mais c'est des endroits qui sont fondamentaux. Bon, ça, c'est du côté, puisque quelqu'un parlait de Jérôme Bachet. Bon, Jérôme, il vit maintenant au Chiapas, donc chez les zapatistes. Et c'est là qu'on dit, justement, ici, vous entrez dans un territoire rebelle zapatiste, ici, le peuple commande et le gouvernement obéit. Avec cette idée justement qu'on prend le temps, le symbole des zapatistes, c'est l'escargot, hein, parce qu'on prend le temps de la démocratie. En fait, c'est un tout autre rapport au monde, au vivant, à l'art, à la culture, à l'enfance, etc. On prend le temps. Mais c'est difficile aussi. Hein. Justement, Jérôme, je le connais bien, je l'interroge souvent sur la situation là-bas, Jérôme Bachet. C'est difficile. Hein. Il y a aussi des jeunes qui veulent quitter le Chiapas zapatiste, parce que c'est dur, parce que c'est un tout petit territoire, et donc faut beaucoup travailler la terre en fait pour faire vivre cette terre. Et donc tant qu'on n'a pas une extension plus généralisée de ces zones, c'est compliqué. Hein. Donc il y a tout ce qui se passe en Inde aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ça reste difficile. Hein. Donc en fait, je pense qu'il faut justement démultiplier ce type d'expérience. Là, j'avais justement prévu de vous parler aussi de toutes ces coopératives, tous ces lieux qui sont autogérés aujourd'hui, des associations. Je ne parle pas d'associations philanthropiques ou de charité, hein, mais vraiment des associations d'autogestion, d'auto-organisation populaire, qu'on a vu aussi beaucoup avec les soulèvements de la terre. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, il y a le film extraordinaire de Thomas Lacoste qui s'appelle Soulèvement, sur les soulèvements de la terre. C'est magnifique parce que là, on est au cœur à la fois d'une réflexion théorique anticapitaliste et émancipatrice, mais aussi sur des luttes de terrain qui sont impressionnantes de savoir, de savoir-faire, de connaissance de la terre. Je voulais aussi vous parler, puisqu'on en était aux exemples, et je pense qu'on ne parle jamais suffisamment de la Palestine. Moi, il y a un endroit où je vais tous les ans, c'est en Cisjordanie, c'est dans cette petite ville qui se trouve près d'Hébron. D'ailleurs, j'y étais en février quand la guerre s'est déclenchée. C'était un peu compliqué, évidemment, d'abord pour les Palestiniens. Et je redirai un mot sur l'Iran, du coup, ce que vous avez dit. Donc ça s'appelle Al-Houl, près d'Hébron. Et j'y vais parce que j'ai rencontré des camarades là-bas qui sont des camarades de paysans, paysannes, qui ont une coopérative qui s'appelle Alsanabel. Alors, si ça vous intéresse, si vous vous dites « j'ai envie de soutenir des Palestiniens, je ne sais pas trop comment, y compris financièrement », vous pouvez chercher sur le site de l'association France-Palestine Solidarité. Vous allez tomber sur cette coopérative de production de raisins. Bon, ça, c'est un camarade, Raed Abou Youssef. Leur mot d'ordre, c'est « cultiver, c'est résister ». Et donc, c'est une coopérative où les biens sont mis en commun, notamment les outils agricoles, etc. Donc voilà, ça je pense que ce sont des actions concrètes d'émancipation qui nous aident à ne pas se résigner justement. Je terminerai par deux points qui ont été posés. Alors déjà sur les futurs possibles. Souvent j'entends dire « Ah oui, mais l'extrême droite, elle a un programme, et la gauche, elle n'en a pas, on n'a pas de projet, etc. » Je suis toujours surprise de ça, parce que, en fait, un programme, on l'a, enfin, il y a plein de choses, là, voilà, je voulais vous faire apparaître tout ça. Enfin, on a un programme avec déjà des revendications un peu élémentaires, un peu immédiates, et puis on a des projets, par exemple, la sécurité sociale de l'alimentation. Quelqu'un a parlé de Bernard Friot, puisque Bernard va venir ici, si j'ai bien compris, en fait, à l'invitation des amis du monde diplomatique. Bah, du côté de Réseau Salariat, par exemple, il y a ce livre qui est formidable, mais ce n'est pas seulement un livre, hein, parce que Kevin Certenay, que vous voyez à droite sur la photo, c'est un paysan qui travaille dans une ferme, justement, qui applique d'ores et déjà le principe de la sécurité sociale de l'alimentation, avec l'idée aussi reprise de Réseau Salariat, notamment de Bernard Friot, de salaire à vie pour les paysannes et les paysans. Mais ça va au-delà, bien sûr, nos projets. Hein. C'est pour ça que, vraiment, quand on discute, y compris de gens qui nous disent « non, mais il n'y a plus rien à faire », etc., c'est reprendre quand même à la base aussi cette question de la répartition des richesses. Et finalement, même le cinéma nous le dit, hein, qu'il faut abattre la loi du marché. Enfin, ça, c'est des films plus ou moins récents. Alors, les fameux films avec Vincent Lindon, mais ce sont de beaux films qui remettent en cause justement cette loi du marché, cette loi du capital, et donc sortir du capitalisme. Donc, ça sera par plein. Moi, je continue d'y croire parce que je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que voilà, l'histoire du capitalisme est un petit segment de l'histoire de l'humanité. Et donc, il n'y a pas de raison de considérer que ça serait mort. Alors, peut-être que, justement, étant donné ce qu'on a dit au départ sur l'écocide, peut-être que cette planète, ou en tout cas cette humanité, finira par cramer avant. C'est justement pour ça que je voulais vous citer Jérôme Bachet. Hein, c'est la citation que j'ai fait apparaître tout à l'heure quand j'ai entendu le nom de Jérôme. Mais voilà, il y a cette idée chez lui que c'est le grand enjeu, c'est de savoir si l'humanité parviendra à se débarrasser du capitalisme avant que celui-ci ne se débarrasse de l'humanité. Mais selon la bonne vieille formule de Brecht, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Hein. Voilà, et l'idée qu'on ne se laissera plus voler nos existences, ça me paraît aussi très important, et c'est ce qui est dit dans nos luttes. Par rapport à l'Iran, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que c'est finalement le cessez-le-feu, ça montre une faille, une brèche dans l'impérialisme, notamment de Trump et de Netanyahou, hein, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'étais en Palestine quand les premiers bombardements déclenchés par Israël ont eu lieu sur l'Iran. Et comme on suivait de très près avec les camarades sur place les négociations qui avaient lieu à Genève avec l'Iran, on s'est dit, mais là, c'est incroyable, parce que c'est vraiment Netanyahou qui déclenche cette guerre, y compris qui met Trump au pied du mur. Bon, de toute façon, ils sont alliés, hein, c'est pas le problème. Mais par rapport à ce que vous avez dit, peut-être que c'est une faille, peut-être que c'est une brèche, mais nous, on n'est pas à la hauteur de la situation. Rappelez-vous ce qui s'était passé en 2002-2003, quand il y avait la guerre en Irak. C'était des manifestations gigantesques. Notre niveau d'anti-impérialisme, il était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Et donc, ça manque beaucoup. Ça me manque beaucoup, les manifestations contre la guerre impérialiste de Trump et Netanyahou et de leurs complices. Donc il faut vraiment qu'on relance aussi ce mouvement anti-impérialiste. Mais je sais que ce n'est pas aux amis du monde diplomatique que je vais apprendre ça.
Vu l'heure, on va être obligé d'arrêter parce qu'il faut restituer la salle aussi. Je ferai deux remarques. Déjà, typiquement, quand il y a eu des manifestations pour la Palestine, et vous savez que depuis le 7 octobre, c'est très difficile, vous savez, quand on arrive à réunir 300, 400 personnes, c'est le bout du monde, sauf quand la CGT soutient, et que ça, c'est une manifestation beaucoup plus importante. D'où l'importance de ces convergences Je ne vais pas reprendre le leitmotiv des convergences de lutte, mais c'est vrai que c'est très important. Quand on a les syndicats avec nous, ça bouge autrement. C'est comme ça. Ça, c'est une chose. Et ensuite, pour information, vous avez le 19 mai, ce mois-ci, à 18h aussi, vous avez le syndicat solidaire qui reçoit le militant mexicain du Chiapas, qui justement, c'est le réseau Mutvitz qui le reçoit, qui est Carlos Beas, qui est un militant sur ce qui se passe au Chiapas. Voilà, pour information, syndicat solidaire, rue Babinet, à vous de trouver. Voilà. On remercie peut-être Ludivine et merci beaucoup.
Mémodio, une mémoire sonore.